Corinne Sanchez, donc, on parlait à l'instant, alors je mets des guillemets, hein, je prends des précautions, la villa de l'empereur Auguste. Expliquez-nous comment cette dénomination est venue.
Alors, cette dénomination est venue petit à petit. Elle n'est pas forcément de notre fait, mais je vais vous expliquer. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé les fouilles à la nautique, on était sur la question portuaire au départ. Et puis, on s'est intéressé, grâce à une photographie aérienne notamment, à une dépression circulaire qui était à côté de la butte de tir, qui faisait 70 mètres de diamètre, qui avait été aussi vue par l'association Anteas à l'époque. Et la question qui se posait, c'était, mais qu'est-ce que c'est cette dépression circulaire? Est-ce que ça peut être portuaire ou est-ce que c'est un très grand vivier? Alors, il s'avère que c'est un très grand vivier. Mais c'est pas un vivier, j'allais dire, comme les autres. Donc un vivier, c'est un espace où vous avez des poissons. Alors vous pouvez avoir un vivier aujourd'hui pour avoir vos poissons frais, j'allais dire, pour la vente. Tandis que là, c'est un vivier qu'on appelle d'agrément. Un vivier avec au centre une salle à manger. C'est là où on est véritablement dans les comparaisons avec l'Italie, où les très très grands propriétaires, les gens très riches, avaient un vivier pour recevoir leurs invités.
Et une salle à manger au milieu.
Et avec une salle à manger au milieu. Et cette salle à manger donc était à l'intérieur du bassin. Donc ce qui fait 70 mètres de diamètre, c'est le bassin. Dans les murs de ce bassin, vous avez des amphores qui sont prises dans les murs, mais qui sont des caches à poissons. Et la chance que l'on a eue au-delà de la redécouverte de cette structure, c'est qu'à l'intérieur de la salle à manger, vous aviez un autre bassin dans lequel on a redécouvert tous les restes de poissons. Et parmi ces restes de poissons, ont été observés des murènes. Et bien sûr, les murènes n'ont rien à faire dans l'étang de Bagé-Sigean. Elles viennent véritablement de la côte. Et surtout, les textes antiques, lorsqu'ils critiquent les viviers, parce que c'est une abondance de luxe, ils décrivent justement la présence de ces murènes avec, bien sûr, toute une légende autour de ces murènes qui est fausse, hein, du style « on va jeter les esclaves qui ne sont pas obéissants ». Il y avait une fille de l'empereur qui avait sa murène préférée à qui elle aurait mis une boucle d'oreille en or.
Ah,
il y a vraiment beaucoup de...
Les murènes étaient domestiquées?
Oui, parce que si vous leur donnez à manger tous les jours, oui, elles deviennent effectivement, elles s'habituent à vous. Alors, puis c'est un animal assez qui est serpentiforme. Enfin, les Romains l'appréciaient beaucoup, malgré son côté un peu...
Malgré toute la mythologie qu'il y a là-dessus.
Malgré la mythologie. Et voilà, et ces viviers, effectivement, avaient ces murènes que l'on pouvait consommer. Et effectivement, ce que nous disent aussi les textes, c'est que dans ces viviers, on profite et on peut aussi pêcher. Et on a retrouvé d'ailleurs des hameçons à l'intérieur même de ce vivier.
Donc, ce qui confirmerait que c'était une villa pour quelqu'un de très riche,
alors,
de très puissant.
C'est quelqu'un de très puissant parce que, bien entendu, ça a un coût. À la fois ses poissons, mais aussi l'infrastructure, parce que 70 mètres de diamètre, donc on est sur du 3500 mètres carrés. Et lorsqu'on compare ces viviers aux viviers qui sont en Italie, et notamment aux viviers de l'empereur Tibère a un vivier qui fait un peu plus de 1000 mètres carrés. Donc on est trois fois dans dimension impériale. D'où la question, à qui appartenait ce vivier? C'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est un petit peu décalé par rapport au port et qu'on est allé fouiller la villa qui est au-dessus du port. Et cette villa, c'est ce qu'on appelle une villa maritime, parce qu'en Italie, les villas maritimes, c'est des villas de luxe qui sont aussi équipées de ces viviers. Vous n'avez pas un vivier de ce type dans les villas classiques. Et ces villas appartiennent plutôt aux sénateurs ou à la famille impériale ou à l'empereur. Et là, comme effectivement, on a un vivier qui est extrêmement important et qui est dans des dimensions impériales, la question qu'on s'est posée, c'est qu'au-delà, qui peut être ce personnage important? Alors, ça peut être le gouverneur de la province, et en même temps, on sait que Auguste est venu à Narbonne, et Auguste, s'il a séjourné à Narbonne, il a dû séjourner dans un lieu qui était à la hauteur, on va dire, de son rôle d'empereur. Et on pense, bien entendu, à la villa de la Nautique.
Voilà, donc c'est une supposition. Correspond, la date de sa venue correspond à ce que
Et la date de sa venue correspond à la datation du vivier. Donc, j'allais vous dire, tout colle, mais il nous manque l'inscription « Auguste est venu
voilà,
ici ».
Voilà, il faut trouver la carte d'identité de l'empereur Auguste.
C'est vraiment une supposition pour le moment, mais qui a des correspondances. Voilà, la date colle à la venue de l'empereur Auguste, et les dimensions, encore une fois, sont effectivement impériales.
Il y a forcément le côté déduction de l'archéologue.
L'archéologue est prudent, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais vous dire que c'est la villa d'Auguste, à part que quand je vous présente ce que je viens de vous présenter, le raccourci, c'est la villa d'Auguste. Voilà. Et puis c'est vrai que ça fait bien.
Entendu, ça. C'est une belle médaille accrochée à votre palmarès.
Et on espère beaucoup qu'un jour les fouilles nous prouvent qu'effectivement c'était la villa de l'empereur.
Alors ça peut arriver. Corinne Sanchez, vous êtes narbonnaise et la question qu'on peut se poser, c'est justement du fait de... que Narbonne a été une ville romaine du fait de tout ce que vous avez pu raconter. Est-ce que cela a créé a suscité des vocations et a développé des talents? Parce que finalement, vous êtes archéologue narbonnaise. Marc Azéma est un Narbonnais également. Il a même reçu une distinction il n'y a pas très longtemps à ce niveau-là. Et puis, il y a les époux Sabrié et le travail incommensurable qu'ils ont fait sur le clos de la Lombarde. Est-ce que on peut dire que d'être Narbonnais ou Narbonnaise, ça suscite des vocations?
Je pense qu'effectivement...
Vous, par exemple.
Oui, moi j'allais vous dire, j'ai toujours été attirée par l'archéologie, mais la chance que l'on a, c'est que quand on commence à être attirée par l'archéologie, dans le Narbonnais, l'archéologie est partout.
Voilà.
Donc on n'est pas frustré, on peut de suite. Et moi j'ai commencé l'archéologie dans les années 80, et c'était une époque où il y avait beaucoup d'archéologie faite par les amateurs. Et c'était aussi une chance parce que ces amateurs étaient des gens qui avaient aussi le contact et qui permettaient aux jeunes de participer aux fouilles. Donc j'ai pu participer très tôt. Tout d'abord à Montserrat, sur le château, avec monsieur Louis Lapeyre, qui était assureur et qui, pendant ses congés, venait faire des fouilles. Et j'ai eu aussi la chance très rapidement de pouvoir intégrer l'équipe de fouilles du Clos de la Lombarde et de travailler avec les époux Sabrié. Et vous comprenez bien que ça m'a marqué puisque je suis encore aujourd'hui en train de travailler sur l'époque romaine à Narbonne. Et c'est vrai que là, on voit que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le sous-sol narbonnais, les vestiges sont uniques. On a ici les plus belles peintures, la plus belle collection de peintures en Gaule. Et là aussi, c'est un travail qui a été réalisé totalement en bénévole à l'époque par les Sabriers. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que vous voyez toute la passion aussi d'un métier. Et je pense qu'on fait aussi ce métier par passion. Donc et la Lombarde, c'est aussi la découverte de l'époque romaine.
Parce qu'il y a plusieurs couches.
Il y a plusieurs couches. On peut être intéressé par plusieurs périodes. Il y a la préhistoire aussi. Vous avez actuellement les fouilles de la grotte de la Crouzade. Et en tout cas, je pense qu'il y a un passage aussi qui a été très important. Et effectivement, de pouvoir commencer les fouilles et d'avoir des fouilles là à proximité, ça permet de poursuivre. Et effectivement, avec Marc Azéma, on s'est aussi rencontré au Clos de la Lombarde parce que, pareil, il a été un des premiers à vouloir reconstituer de manière virtuelle aussi toute cette maison. Donc on a, c'est une communauté
donc
aussi.
Donc ça n'est pas tout à fait un hasard si on est Narbonnais et qu'on a cette passion pour l'archéologie.
Oui. Puis je pense que...
Le lieu s'y prête.
Le lieu s'y prête, les personnes s'y prêtent. Il y a un potentiel qui est absolument extraordinaire. Donc maintenant, on a des nouveaux équipements. On a le Narbovia avec beaucoup d'activités aussi qui sont tournées vers les jeunes. Et je pense que, j'espère en tout cas que ça créera aussi de nouvelles vocations très rapidement.
Oui. Un dernier mot sur le travail fait par monsieur et madame Sabrié. Lorsqu'ils ont trouvé ces peintures, alors ces fameuses peintures dont vous dites qu'elles sont les plus belles en Gaule, le travail que ça représente pour les exploiter finalement.
Alors, faut savoir que...
Ça dépasse l'imagination, presque.
Ça dépasse l'imagination parce que maintenant, quand on visite un musée, vous voyez ces peintures, mais elles ont été trouvées totalement fragmentaires. C'est-à-dire que la maison a été abandonnée, toutes ces peintures sont tombées, donc complètement en fragments. Et les époux Sabrié ont déjà fouillé, c'est-à-dire prélevé ces enduits. Et ça, c'est compliqué parce qu'il faut garder les connexions de ces fragments. Et une fois que ces fragments sont prélevés, il faut les nettoyer. Les étudier, les restaurer. Et ils ont fait durant 50 ans un travail de restauration qui est absolument extraordinaire, parce que la restauration, c'est un métier. Ils se sont formés, ils ont restauré ces peintures et surtout ils ont étudié. C'est-à-dire que Maryse Sabrier a eu une thèse sur les peintures. C'est-à-dire que ce sont vraiment des gens qui se sont hissés au niveau de chercheurs.
Voilà, et qui ont consacré véritablement leur vie. Et alors, si vous permettez l'expression, c'est un travail de Romain ce qu'ils ont fait là.
On peut conclure là-dessus, effectivement.
Merci Corinne Sanchez, donc archéologue, qui vous allez avec vos équipes reprendre les fouilles cet été ou pas.
Alors chaque année, on reprend les fouilles généralement à partir du mois de mai, parce que on fouille à la période estivale, puisqu'on travaille avec des étudiants qui viennent en formation. Donc on a une équipe d'étudiants qui viennent de diverses universités de France, mais aussi de l'étranger, et on a généralement des stages de 3 semaines de formation. Donc cette année est une année un petit peu à part.
Une année à part parce que vous fouillerez pas de la même façon.
Voilà, cette année on a décalé la fouille plutôt à l'automne. Voilà.
Voilà, mais ça fait partie aussi du travail de l'archéologie. Merci en tout cas, Corinne Sanchez, donc d'être venue nous expliquer de tout ce monde un petit peu mystérieux pour certains qu'est l'archéologie. Le prochain invité sera le député de Narbonne, Frédéric Falcone. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.